Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
L'aventure, je sais pas, l'exploration et donc l'espace, c'est vrai. C'était quelque chose qui m'a motivé dès le début, vers lequel je suis allé, puisque mes études m'ont conduit vers l'astronomie. Et puis après, j'ai un tout petit peu dérivé vers l'informatique avant de passer au spatial. Donc je suis resté quand même très proche de l'espace.
Bonjour, avec la complicité de Daniel Verling, le président de la Société d'astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Philippe Godon, chef de projet de la mission Rosetta au CNES. Philippe Godon est intervenu dans le cadre des conférences de la SAN sur le thème « L'Europe sur une comète, l'aventure Rosetta ».
Ça vous dit quelque chose, Rosetta ?
Ah, pas du tout, désolé.
Non, du tout.
C'est pas
désolé.
Entendu parler d'une petite comète ?
Qui s'appellerait Churyumov-Gerasimenko, sur laquelle on aurait atterri. Non.
Pas du tout.
Non, mais vous vivez sur quelle planète ?
À Nantes.
À Nantes.
Non, je ne regarde pas ni la télé, rien. Donc, je n'écoute pas la radio, rien. Je fais exprès d'être sur notre planète. Je n'ai pas envie de m'embêter avec
Vous avez juste une petite minute pour qu'on vous explique ça ?
Vous savez peut-être ce qu'est une comète ? Pas vraiment. C'est un petit morceau de glace dans l'espace. Mais un morceau de glace qui contient tout un tas de choses dedans. Des poussières, des molécules organiques. Et on pense que ces comètes sont des briques de formation du système solaire. Et deuxièmement, qu'elles ont pu former l'eau des océans et qu'elles ont apporté dans les océans la vie sur Terre. Donc on est allé voir très loin dans l'espace. On était à 510 millions de kilomètres de la Terre au moment où on atterrit. Si on retrouvait bien une eau qui était semblable à celle des océans terrestres et des molécules organiques complexes. On n'a pas encore la réponse à toutes les questions. Il va falloir des années avant de dépouiller les résultats, mais on a déjà des choses intéressantes.
Il y a eu donc un atterrissage sur la comète.
Oui.
Mais vous y étiez ?
Non, il était inhabité. C'est un robot, hein, quand même. On n'aurait pas osé encore.
Oh, je sais que vous y étiez allé, hein. Il n'y a pas de problème.
Petite déception, là.
Oui, il faudra attendre peut-être une centaine d'années, voire 200 ans, avant d'aller vraiment atterrir.
À un intermédiaire, alors.
Oui, c'est beaucoup plus loin de la Lune. Par exemple, la Lune est à une seconde lumière de la Terre, 340 000 km. Mais là, on était à 28 minutes 40 à la vitesse de la lumière. Donc, vraiment très loin. On n'est pas encore prêt d'y aller poser le pied. La surface.
Bah non, justement, je te dis que j'étais pas au courant.
C'est un truc de fou quand même. Oh, bah dis donc, vous êtes scientifique
Oui, scientifique ingénieur. Nous, on a conçu le module, le robot, pour aller atterrir dessus. Et puis, en 2014, on l'a contrôlé. On a fait les opérations avec. On lui a envoyé les ordres et il nous a renvoyé des données. Voilà.
Et vous avez fait quoi ?
J'ai fait l'université, j'ai fait un diplôme en astronomie, et puis après j'ai fait ingénieur en informatique, ingénieur système, et je suis devenu chef de projet.
Oh, bah, voilà. Félicitations, j'en reviens pas. Oh, c'est extraordinaire, hein. Vous êtes quasiment un génie, quoi.
Oui, dans ingénieur, il y a génie,
voilà,
donc
voilà.
Non, je ne me prends pas pour un génie, c'est une grosse organisation.
Il y a eu jusqu'à... voilà, informatique par rapport aux robots.
Oui.
Donc ça complexifie beaucoup les choses par rapport à quand il n'y avait pas de robots, quoi, parce que là, ça vous oblige à être encore plus savant, quoi.
Oui. On voulait atterrir à un endroit extrêmement précis qu'on avait mis des mois à choisir à la surface de la comète. On est tombé à 100 mètres de là, très bien, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à bord du robot, c'est les ancres, les harpons. Et il ne s'est pas harponné à la surface, donc il a rebondi. Et il a été rebondir à 1,4 km de l'endroit prévu, donc assez loin. Et depuis, au lieu d'être sur le côté éclairé de la comète, il est sur le côté obscur de la comète, si on peut dire, côté hiver. Et on attend que les beaux jours arrivent sur ce côté de la comète pour pouvoir réveiller.
C'est ça que j'ai entendu alors ? J'ai entendu, parce que bon, je vous dis, j'aime mieux pas écouter, mais j'ai quand même entendu qu'il y avait un espèce de robot qui ne s'était pas attaché et qui avait rebondi.
Voilà.
Effectivement, j'ai juste entendu ça.
Ça s'appelle Philae.
Voilà. Philae. Ah voilà, Philae. Ah oui, j'ai entendu quand même. Oui, Philae. Si ça me... Ça revient là, Philae. Ah oui, d'accord. Ah bah du coup, ça me concrétise un peu des bribes que j'ai, voilà, que j'ai entendues.
Ça vous a Philae du mauvais coton.
Et tout à fait. Ouais.
Oui, mais enfin, il aurait pu rebondir.
Rien n'est perdu, rien n'est perdu.
Il va... Combien de temps ?
On a déjà essayé cette semaine de voir s'il se réveillait, mais il semble qu'il fasse encore un peu froid pour lui.
Ah oui.
Et il est en hypothermie, là, et on va recommencer le mois, un peu comme nous aujourd'hui, et on va recommencer le mois prochain.
Attends. Non, mais enfin, c'est quand même bien, parce qu'il s'est agrippé quand même de l'autre côté de la comète, il aurait pu s'agripper pas du tout, et
oui,
et
pas tout à fait, hein, c'est comme vous, quand vous sautez, vous retombez sur vos pieds, et voilà. Donc il a fait un peu ça, et comment ?
Avec la force de la gravité.
Voilà, très bien. C'est la gravité de la comète qui est très très faible, mais qui l'a quand même ramené vers le sol. Et c'est, je crains que ce soit des rochers qui l'aient arrêté, voire une falaise. Donc il est un petit peu... Sur Terre, il pèserait 100 kg, et sur la comète, 1 gramme.
Ah ouais, d'accord.
Il ne faut pas grand-chose pour le renvoyer dans l'espace,
d'accord,
mais...
Donc on a que Philae se réveille comme la belle au bois dormant, quoi, finalement, voilà. C'est un peu ça.
Le prince charmant, c'est vous.
On est plusieurs princes charmants. Je suis quand
même. Hein, vous êtes obligé.
Je peux pas
dire
que je suis tout seul. Hein. Il y a de nombreux princes charmants.
Félicitations et j'espère que dans un mois, ce sera bon.
Et voilà, un mois, deux mois. Disons qu'on aura un maximum d'énergie au mois d'août.
Ah oui,
l'été sur la comète est un petit peu notre été ici.
Ah oui.
À l'endroit où on atterrit. Donc, on espère que même avant l'été, il se sera réveillé.
Bon, bah c'est bien ça, hein. C'est vrai, c'est épatant quoi.
Alors l'utilité de tout ça, à part d'être émerveillé.
Je sais pas, moi ça me fait rêver, puis ça suffit pour moi.
De connaître l'existence, de connaître l'origine de l'existence des océans. Et...
Voilà, exactement. Et de la vie sur Terre. On va voir hein, si on... C'est pour le moment qu'une théorie, et on est allé là-bas pour essayer de vérifier cette théorie. Voilà. Donc elle va, j'espère, se vérifier petit à petit. Mais comme je vous disais, ça va prendre beaucoup de temps en analyse. Nos chercheurs, parce que je ne suis pas le scientifique, on a peut-être 200 scientifiques travaillant sur le projet, nous donnent les résultats petit à petit. Et les molécules complexes dont on parle, là, ça sera les derniers résultats connus peut-être. Donc il nous faudra un an ou deux.
Ça existe aussi, cette notion de mauvais temps dans l'espace
Oui, un tout petit peu, oui, on parle...
Pour les calculs
On conçoit nos satellites, nos sondes spatiales en fonction de ça. On connaît les problèmes, la chaleur ou le froid, l'électricité, enfin, tout ce qu'il y a dans l'espace qui peut causer des perturbations. Et donc, normalement, on n'a pas trop de surprises, sauf quand quelque chose se casse à bord de la sonde, quoi.
Mais donc aucune surprise, tous les calculs étaient justes et tout. Donc
C'est vrai, on a eu peu de surprises, à part ce rebond inattendu tout à fait à la fin, mais sans quoi la sonde a fait 6 milliards et demi de kilomètres, et régulièrement on l'a guidée, on l'a poussée, on l'a accélérée, on l'a freinée pour qu'elle suive la trajectoire idéale qu'on lui avait donnée au départ. Donc c'est vrai qu'on a eu peu de surprises jusque-là. Mission presque parfaite.
Félicitations, hein, parce que quand même, c'est pas rien, quoi.
Ah oui.
Quand on dit la Lune est à temps et puis l'autre, il est à temps, bon, ça permet, même quand on n'est pas scientifique, de un petit peu avoir...
De relativiser, la position.
De comprendre que c'est un événement qui est important, quoi.
Par contre, messieurs, j'ai vraiment très froid, là.
Oui, non, merci.
Elle est agrippée au sol, on ne sait pas quand elle va se réveiller.
Vous allez rebondir.
On tombe en hibernation, là, c'est pas pareil.
Merci beaucoup
et puis bravo au chef de projet, à vous-même.
Oui. Bon, c'est un projet européen, je ne suis pas le seul, c'est pour ça que je dis c'est une réussite collective, mais voilà. Se dévaloriser non plus.
Voilà, il faut être conscient de sa valeur quand même. Vive la France. Vive nos chercheurs, vive nos scientifiques.
Super. Très bonne continuation.
Bon, bah, alors maintenant j'écouterai quand même les infos.
Je
penserai à vous du coup.
Bah, si c'est 2 ans, c'est relativement court en fait.
Qu'est-ce qui est 2 ans ?
Bah, 2 ans pour étudier les molécules.
Ah oui, et simplement exploiter les résultats. On a des bits, des 0 et des 1, et on les a reçus sur Terre, là, il faut se débrouiller avec ça pour en tirer toutes les conclusions.
Ça peut prendre des années, des dizaines d'années, des dizaines d'années. Donc là, c'est
vrai, parce qu'en plus, il y a les résultats de Rosetta, mais il y a les résultats d'autres sondes spatiales. Il faut ce qu'on appelle croiser les résultats. La théorie ne vient que de multiples données, en fait, provenant de multiples projets. C'est d'autant plus compliqué, oui.
Ah ben, en science, il faut de la rigueur, oui, effectivement. Il y a toute l'expérience et après la théorie, il faut que ça colle.
Voilà.
Et si ça colle pas, même le moindre petite chose, ça fait tout capoter, quoi. Enfin bon, je pense que c'est...
Oui, ça peut être remet en cause la théorie, mais...
On doit avoir des moments d'exaltation dingue et puis des moments on est un peu déçu des fois et... Pardon.
Non, même les surprises négatives sont intéressantes.
Bon, c'est voilà. Bien, c'est bien.
Quelque
c'est
chose qu'on...
Scientifique, alors, voilà. C'est super. Super, bravo. Hein. Bravo, bravo.
Merci.
À vous. Hein. Voilà. On suivra les choses, enfin moi en tout cas je suivrai les choses maintenant, c'est bien, impeccable, grâce à vous.
Au revoir.
C'est un projet qui a 20 ans, donc on n'a pas la dernière technologie actuelle. On a été obligé de construire la sonde dans les années de 97 à 2000, de l'essayer après de 2000 à 2003. Et puis une fois après qu'elle était lancée, on peut modifier quelques petites choses à bord qui sont les logiciels, mais pas grand-chose. Donc on est avec une technologie ancienne. Mais malgré tout, il y avait déjà l'informatique. On n'était qu'au début du numérique, par exemple, pour la photographie. Donc voilà, actuellement, on aurait mis des appareils photo, si on peut dire, à bord de la sonde qui aurait été plus perfectionnée. Il faut faire avec, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, on a de superbes photos.
J'ai l'impression que les batteries d'aujourd'hui, elles tiennent moins bien que celles d'hier.
Là, la technologie, en plus la batterie, c'est le CNES, mon organisme, le Centre National d'Études Spatiales, qui l'a fourni. C'est du lithium-ion. C'est ce que vous avez à bord de vos montres, de vos portables, téléphones portables et tout. C'est une technologie qui a évolué et qui a commencé un peu pour le spatial et qui est devenue maintenant, qui est arrivée dans le grand public. Donc voilà, le spatial sert aussi à développer des technologies. Et là, c'est vrai, en 1995-97, on était un petit peu au début des piles lithium-ion.
Quand on décide ce type d'opération, c'est parce qu'on estime qu'il y a un minimum, une assise technologique qui va permettre d'arriver à ses fins.
Oui, quand on décide de la mission, on sait qu'on va pouvoir la réaliser, technologiquement. Le problème est plus de trouver le budget à ce moment-là. Parce que c'est un gros budget, c'est une sonde extrêmement complexe avec... jusqu'à 1000 personnes qui ont travaillé au moment du développement. Donc un projet énorme, mais aussi divisé. Comment dire ? Ça a été payé aussi par les 19 pays européens. La France a une grosse participation avec l'Allemagne. Ce sont les deux pays qui ont le plus mis dans la sonde. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pays européens qui y participent. Et il y a aussi la NASA qui ont mis deux instruments scientifiques sur l'orbiteur de Rosetta. Donc ça coûte cher, mais c'est partagé.
Tout est relatif.
Cher, c'est...
Combien de mois de salaire
pour un joueur
de football, par exemple ?
C'est quasiment une cigarette par Français et par an sur 20 ans. Voilà, le prix.
Il y a quelques idées de départ qui sont remises en cause. Notamment sur l'origine des comètes
Complètement la théorie. Disons qu'on pensait que toutes les comètes se ressemblaient et que tout aurait pu former l'eau de nos océans. Et en fait, là, on est dans le cas avec Churyumov-Gerasimenko d'une comète qui a une eau très différente de l'eau de nos océans. Donc ça donne une idée de l'origine de là où elle s'est formée et du fait que c'est peut-être pas ce type de comète qui est venu taper contre la Terre et former les océans terrestres.
Avec la complicité de Daniel Wörling, le président de la Société d'astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Philippe Godon, chef de projet de la mission Rosetta au CNES.
La sonde Rosetta, non, ça ne nous dit absolument rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Ah, c'est une sonde qui a été construite il y a un certain nombre d'années, mais qui vient d'arriver près d'une comète, au nom barbare, Churyumov-Gerasimenko, et qu'on est allé avec un petit robot qui s'appelle Philae se poser à la surface. On a tenté de creuser, enfin on essaye de savoir de quoi est constitué le sol de la comète.
Elle est à combien de milliards de kilomètres ou...
Alors, c'est pas des milliards, mais c'est des millions quand même. Actuellement, on est à environ de 500 millions de kilomètres de la Terre.
Un demi-milliard de kilomètres.
Je suis un néophyte, je voudrais bien savoir, parce que quand on parle de comète, c'est normalement quelque chose qui est en mouvement. Et apparemment, vous parlez d'une sonde qui se pose sur une comète. Alors, expliquez-moi un peu, c'est quoi ?
C'est vrai, mais c'est que notre sonde a la même vitesse que la comète, quasiment. Donc, on va de conserve avec la comète, et avec une vitesse entre les deux très faible. Et le petit robot, on l'a envoyé, on lui a donné une petite pichenette pour aller vers le sol de la comète. Mais elle allait à la même vitesse que la comète.
Donc elle a pu se poser normalement au-dessus de la comète.
Oui, presque normalement, avec un petit rebond supplémentaire.
Vous avez des images
Oui, on a des images, une fois qu'elle a été posée, oui. On avait aussi des images de la comète entière, parce qu'il y a une partie de la sonde qui reste en orbite autour de la comète et qui observe la comète depuis l'orbite. Et
quelles sont les caractéristiques de cette comète ?
Elle fait 5,4 km de long dans sa plus grande distance, 2,6 km de large, et puis elle a une forme extrêmement biscornue. On l'appelle un peu un canard parce qu'il y a une sorte de corps un peu aplati, un cou et puis une tête. On est posé sur la tête.
Et quelle est l'utilité scientifique d'une telle expédition ?
Bien, c'est remonter aux origines du système solaire et peut-être aux origines de la vie sur Terre. Donc on pense qu'à l'intérieur des comètes, il y a des molécules complexes, molécules organiques, qui pourraient être à l'origine de notre ADN.
Est-ce que vous avez déjà des retours ?
Ah oui, on a beaucoup de résultats déjà, et ils sont en cours d'exploitation par les scientifiques. Donc on a juste, et je vais présenter seulement les premiers résultats.
Très bien, en tout cas, je vous félicite.
Comment vous êtes passé à côté de l'événement international ?
Je suis en mouvement, je suis secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal et j'étais en mission à Moscou. Là, je suis venu voir mes enfants qui sont étudiants à Nantes. Alors donc, je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'espace et à l'infini parce que la recherche de l'excellence conduit à l'excellence de la recherche. Merci, je vous félicite.
Des données, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une comète extrêmement surprenante en surface. On s'attendait à un corps qui était un petit peu... Puisque le relief est formé par le dégazage, on pensait à un relief assez mou, de dunes ou quelque chose comme ça. Et puis dans la réalité, la surface est incroyablement... Il y a plein de reliefs, il y a des falaises, il y a des rochers, il y a... Et on essaye de comprendre comment tout ça se forme. Pour le moment, ce n'est pas bien compris. On a l'impression, en fait, qu'à certains endroits, la comète qui dégaze en surface pourrait avoir des poches de gaz et qu'il y aurait une sorte de phénomène un peu explosif, comme des petits volcans qui se créeraient à la surface, ou implosif, c'est-à-dire des endroits où le sol s'effondre. Donc on a des trous, on a des cratères, enfin... C'est un relief auquel on ne s'attendait pas du tout, ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a découvert aussi ? On a découvert... Normalement, une comète, ça dégaze et ça soulève de la poussière. Cette poussière, on pensait qu'elle n'était pas trop grosse. Et puis, on a découvert en orbite autour de la comète des morceaux de rochers, presque, qui font jusqu'à 1 mètre de diamètre et qui sont là, en orbite. Alors, on ne s'attendait pas du tout qu'une comète qui a une très faible gravité pouvait avoir des sortes de petits satellites autour de la comète. Après, il y a plein d'autres résultats intéressants, mais très scientifiques, sur, par exemple, la formation de la magnétosphère autour de la comète, parce qu'elle se protège un peu comme la Terre, qui a sa propre magnétosphère, par un volume d'électrons qu'il y a autour de la comète. « La surface de la comète aussi est très homogène, très noire. C'est noir comme du charbon, la surface d'une comète. Et on aurait pu penser que, comme elle est formée à 90% de glace d'eau, de glace de gaz carbonique aussi, cette glace, on la verrait. Et en fait, non, on ne voit pas de glace en surface. Donc cette glace, elle est en profondeur. Et la surface étant noire, en fait, il s'agit sûrement des molécules organiques et carbonées qui se retrouvent en surface et qui forment une couche peut-être de 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, on verra, en surface et qui recouvre la totalité de la comète. Alors ça, on s'y attendait un peu plus parce que avec la sonde Giotto qui avait survolé Halley de très près et d'autres sondes, on avait vu déjà que les comètes étaient très noires en surface. Mais là, c'est la première fois qu'on est aussi près. On est descendu à 10 km d'altitude, on l'a vu vraiment sur toute sa surface, avec beaucoup de détails. Et pour le moment, hein, parce qu'on est encore assez loin du Soleil, elle ne dégaze pas beaucoup, et elle est vraiment couverte partout de cette couche noire. Mais en se rapprochant du Soleil, normalement l'activité de dégazage va augmenter fortement. Cette belle queue d'une comète va se former, va soulever beaucoup de poussière, et peut-être va découvrir cette glace dessous. Donc l'idée de la sonde Rosetta, c'est justement de regarder l'évolution de la comète. Ce n'est pas de regarder une comète à un instant donné, c'est de voir comment elle évolue sur son parcours autour du Soleil et d'essayer vraiment de comprendre le phénomène comète. Parce que dans l'espace, un corps qui est solide se transforme directement en gaz. Il n'y a pas de phase liquide. Ça me fait penser que c'est peut-être en plus quelque chose qui pourrait se passer. Et ça serait une grosse surprise. C'est qu'à certains moments, dans la transformation de la comète en surface, on croit apercevoir quelque chose qui a coulé. Donc une sorte de phase liquide. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'inattendu.
Quel type d'instruments de mesure ont été embarqués ?
Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'instruments. Il y en a 11 sur l'orbiteur qui reste en orbite donc, et qui tourne autour de la comète pour l'observer, et 10 sur l'atterrisseur. Sur l'orbiteur, il y a beaucoup d'instruments qui regardent Philae, qui prennent des photos, si on peut dire, dans différentes longueurs d'onde. La longueur d'onde visible, c'est la longueur d'onde de notre œil. Mais si on regarde dans l'infrarouge, on voit autre chose. Si on regarde dans l'ultraviolet, on voit autre chose. Si on regarde dans les micro-ondes, on voit autre chose. Et donc, on a plusieurs instruments qui regardent dans différentes longueurs d'onde. Après, on a 3 instruments qui s'intéressent aux poussières. Ils récoltent des poussières. Alors, on a des petits microscopes à bord et qui analysent, qui regardent la poussière, comment elle est constituée, et qui regardent aussi sa vitesse, quelle est la masse, qui fait des statistiques sur la poussière. On a un instrument qui s'occupe du dégazage, donc du gaz qui provient de la comète. Et on analyse la composition du gaz, donc les molécules simples, mais aussi des molécules complexes. Il y a aussi une énorme association d'instruments qui s'appelle RPC, et là qui s'occupe de tout ce qui est ions, électrons, c'est-à-dire que les ultraviolets du Soleil, même pourtant on est très loin du Soleil, cassent les molécules et fabriquent des ions et des électrons. Donc on regarde comment tout ça se passe au fur et à mesure qu'elle évolue autour du Soleil. Ça, c'est pour l'orbiteur. Après, pour l'atterrisseur, on avait une foreuse à bord. On a toujours une foreuse. Et donc, on est capable de prendre un échantillon. Cet échantillon est prélevé, amené à bord de Philae, du robot, et mis dans un petit four, observé par un microscope aussi. Et puis, une fois qu'il a été observé par le microscope, il est chauffé à différentes températures, on peut faire chauffer le four à différentes températures, cet échantillon est transformé en gaz et analysé par des spectromètres de masse. Et donc on analyse aussi la composition de l'échantillon prélevé du sol grâce à ça. Alors on avait aussi des mesures de magnétisme avec un autre instrument. On a des mesures aussi d'ions et d'électrons, soit dans le gaz, soit dans le sol de la comète. On a des mesures de température du sol et on a des mesures dans le magnétisme, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier ? Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on est capable de faire à bord de Philae.
Qu'est-ce qui manque qu'on aurait pu mettre aujourd'hui ?
Je crois qu'on a tout, mais on aurait des instruments encore plus précis. Encore 10 fois plus précis qu'on a actuellement. Mais on aurait mis le même genre d'instruments. Voilà. avec des spectromètres de masse, des chromatographes en phase gazeuse, enfin des machines extrêmement compliquées, mais dont on peut toujours améliorer ce qu'on fait régulièrement, quoi.
Et donc, toutes ces informations, elles sont reçues régulièrement ?
Alors, il y a quelquefois quelques petites pertes, hein, quand même. C'est quelque chose... On envoie donc des télécommandes à la sonde, et puis elle réalise... Elle exécute les commandes, et puis elle nous renvoie des données. Ça dure 28 minutes dans un sens, et 28 minutes dans l'autre sens. Ces télécommandes sont sous forme de bits, 0 et 1, envoyées par d'énormes antennes qui font 35 mètres ou 70 mètres de diamètre. Et une fois que les données ont été acquises, elles reviennent vers la Terre sous forme de bits de la même façon. Elles sont récupérées par les mêmes grosses antennes et donc analysées une fois qu'elles sont arrivées sur Terre.
La marge d'erreur ?
En fait, que ce soit les antennes pour envoyer les télécommandes, elles n'envoient pas un pinceau extrêmement étroit, elles envoient un pinceau extrêmement large dans l'espace. Et donc on est sûr que Rosetta recevra bien les données. Et dans l'autre sens, c'est pareil, Rosetta envoie les données vers la Terre, mais ça va vers Mars, ça va un petit peu partout. Et puis la Terre est capable de recevoir ces données grâce à ces grandes antennes. Alors pourquoi Churyumov-Gerasimenko ? Il fallait que ce soit une comète dite jupitérienne, capturée par Jupiter. Parce qu'une comète qui proviendrait comme elle est de beaucoup plus loin arrive beaucoup plus vite et beaucoup trop vite pour notre technologie. Donc il n'y avait que quelques comètes vers lesquelles on était capable d'aller. Après, la taille a joué, il ne fallait pas qu'elle soit trop grosse parce que si elle est très grosse, notre train d'atterrissage n'aurait pas résisté à la gravité. Donc il nous fallait une petite comète et on avait le choix entre 3 ou 4 et c'est Churyumov. Pour des raisons de... Ça, c'est les scientifiques eux-mêmes qui ont fait ce choix-là.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
Ah ben, c'est ma première fois et je trouve ça intéressant. Je pensais un tout petit peu qu'on aurait statistiquement, on serait tombé sur quelqu'un qui en aurait entendu parler et par deux fois, on est tombé sur des personnes qui ne connaissaient pas, mais qui ont tout de suite accroché, qui ont tout de suite été intéressées par le sujet. Et ça, c'est vraiment super.
Merci à Philippe Godon, chef de projet de la mission Rosetta Hawkness, et merci à
Isabelle,
Marie,
Monsieur Lee,
Salomé,
Manon,
pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de Daniel Wörling, le président de la Société d'astronomie de Nantes.
Philae, ça vous dit quelque chose ?
Philae ?
Oui.
Pas du tout.
Rosetta, non plus ?
Non plus. Non. Qu'est-ce que c'est ?
Rosetta est une sonde pour explorer une comète.
D'accord.
Et Philae, c'était le petit robot accroché à la sonde qui allait se poser à la surface de la comète. Ça s'est passé en novembre 2014.
D'accord.
Jamais entendu parler ?
Non.
Vous regardez la télévision ?
Oui.
Vous écoutez la radio ?
Oui.
Mais trop la télé-réalité peut-être, non ?
Non. Non, non. J'ai pas besoin. J'ai la tête à regarder la télé-réalité.
Non, du tout. Non, mais comment on peut passer à côté de cette information ?
Je ne sais pas. Mais c'est peut-être parce que c'est un domaine dont je m'intéresse peut-être pas forcément. Mais
c'est très scientifique hein, quand même. Ouais, c'est très...
Je devrais peut-être, mais...
Bah non, Rosetta, ça vous dit quelque chose ?
Non, ça me fait penser à un prénom de vache.
Oh. C'est normalement la pierre de Rosette. On n'en a pas parlé, mais c'est une référence à l'archéologie et à la découverte faite de la pierre de Rosette et du déchiffrage de la pierre de Rosette par Champollion.
Jamais entendu parler d'un petit robot posé sur une comète ?
Ah bien sûr que si, oui.
Ah, enfin.